Sud Radio. Parlons Immo.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio comme tous les samedis jusqu'à 10h. On embrasse Sylvain Lévy-Valency qui d'ordinaire officie à cette émission. On est avec Bérénice de Villefleurio ce matin. Bonjour Bérénice.
Bonjour Jean-Marie.
Et avec Grégoire Daricot également. Bonjour Grégoire. Au programme ce matin Bérénice.
Et au programme, on va décrypter le marché immobilier. On va voir quels sont les prix, les délais de vente, le mental des vendeurs, des acquéreurs avec notre invité Olivier Bugette, le CEO de la boîte Immo.
Exactement. On va faire aussi une réponse à tous ceux qui nous laissent des messages au 0826 300 300 en compagnie de nos experts.
Et oui, comme d'habitude, on a eu plein de questions, donc on vous en dira un peu plus sur la téléassistance.
Ah, qu'est-ce que la téléassistance? Et puis on fera un tour de France des biens à acheter, que ce soit en viager ou alors en achat ferme. C'est ce qu'on verra. Mais avant ça, commençons par les infos à retenir, les infos de la semaine, Bérénice.
Et Bérénice, quelles sont les villes où les étudiants ont le moins de chances de trouver un logement?
Eh oui, grande question. Le gestionnaire de résidences étudiantes Les Belles Années vient de publier donc le classement des villes françaises où la tension locative sur les logements étudiants, donc sur les T1, est la plus forte. Alors en première position, on retrouve Rennes, puis Lyon, La Rochelle, Caen, Bordeaux, Strasbourg, Angers, Brest, Montpellier et Aix-en-Provence. Alors focus, trois villes à surveiller, trois villes qui risquent de voir justement la situation pour leurs étudiants se dégrader en matière de logement. Il s'agit de Dijon, Le Mans et Marseille. Marseille où de plus en plus de nouvelles écoles s'implantent. Alors c'est très bien, sauf que les logements
ne suivent pas.
Donc forcément, ça va être compliqué. Alors, un petit rappel, pourquoi c'est aussi tendu? Les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont flambé, on en parle beaucoup dans Parlons Immo. On a des difficultés à obtenir un prêt, même si ça s'arrange un petit peu, c'est toujours pas évident. Les prix sont toujours trop élevés, on en parlera avec notre invité. La construction est en berne, donc faute de pouvoir acheter leur résidence principale, leur foyer, les Français n'ont d'autre choix que de la louer. Résultat, alors que la demande de location ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois, c'est plus 18% qu'on enregistre en 2023 en moyenne en France. Les meublés disponibles à la location ont diminué de 20% l'année dernière. Donc c'est un phénomène en fait qui est très marquant pour les petites surfaces. Et les petites surfaces, eh bien c'est les logements très prisés par les étudiants.
Évidemment.
C'est pourquoi ils sont touchés de plein fouet par cette crise du logement. Et je rappelle que les premiers résultats d'admission, les premières réponses d'admission sur Parcoursup ont été publiées jeudi, et que le logement étudiant, eh bien, est plus que jamais sous tension en France. Et un chiffre quand même assez dramatique, c'est que environ 12% des étudiants renoncent à leurs études faute de logement.
Oui, et ça, c'est dramatique. Ouais. Effectivement.
Alors, Bérénice, vous nous parlez maintenant d'un concept trop peu connu, les pensions de famille.
Oui, Grégoire, les pensions de famille, ce sont en fait, alors vous l'avez dit, c'est assez peu connu et pourtant ça mérite d'être connu, c'est dans toute la France en fait, les pensions de famille proposent des logements aux personnes fragiles et isolées avec des espaces collectifs. On avait fait une émission sur le co-living, et ben c'est un peu ça, il y a des activités collectives, il y a vraiment une atmosphère familiale et chaleureuse. Les pensions de famille sont animées par des hôtes qui sont des professionnels mais aussi des bénévoles qui animent les lieux. Ils soutiennent les habitants au quotidien, ils les aident aussi dans leurs démarches, les démarches administratives et autres. Hein. Et ils assurent la mise en œuvre du projet social porté par Habitat et Humanis. Alors, il y a de nombreuses sorties, il y a des animations qui sont proposées justement pour aider à la resociabilisation des résidents et favoriser leur insertion sociale. Il faut savoir que les pensions de famille, c'est pas très grand. Hein. C'est à petite échelle, donc c'est ça qui est assez sympa aussi. Ça peut faire
peur. C'est pas un dortoir.
Exactement.
Voilà.
Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que cette semaine, c'est la 4e édition de la Semaine Nationale des Pensions de Famille. Alors, il y a plein d'activités qui sont organisées partout en France. Je vous conseille d'aller voir sur le site pensionsdefamille.org. Tout est détaillé. Il y a un programme en fonction de où vous vous trouvez en France, voilà, pour trouver la pension de famille vers chez vous.
Un très beau programme qu'on est ravis de mettre en lumière. Et pour terminer, Bérénice, on va parler de sport, ou presque.
Oui, parce que j'ai pensé à vous deux, Grégoire, Jean-Marie. Ce week-end, qu'est-ce qu'il y a ce soir?
Il y a des matchs importants.
Ben oui, la finale de la Ligue des Champions qui se disputera, le Real contre Dortmund.
Vous parlez à un supporter des Verts et un supporter de l'Olympique de Marseille. Cette compétition, ça fait un moment qu'on ne l'a pas joué, vous savez, donc c'est pas forcément le match qu'on va regarder.
Ben oui, mais bon, les amoureux du football, ils sont tous quand même là. Bon, en tout cas, je vais vous parler de l'ex-attaquant du PSG. Bon, là encore, je pense
qu'il parte.
Voilà, bon, bah très bien. Kylian Mbappé qui a trouvé la villa de ses rêves dans un quartier ultra sécurisé de Madrid qui s'appelle la Finca. Alors, pour info, c'est le Beverly Hills espagnol.
Ouais.
Voilà, d'autres joueurs de Real y habitent d'ailleurs. Et la villa en question serait l'ancienne propriété du Gallois Gareth Bale. Ouais. Donc, Je rappelle que Kylian n'a pas, oui, je le connais, c'est pour ça, n'a pas officiellement annoncé qu'il partait au Real, mais en tout cas, sans il a doute, acheté la maison et la villa en question, 1200 mètres carrés, 7 chambres, 11 salles de bain, un green de golf, hein, un jacuzzi ou encore une piscine ouverte. Et c'est un bon négociateur immobilier, notre Kylian, parce qu'elle a été mise en vente à 13 millions et il l'a acheté 11 millions.
Et comme quoi, il s'en est bien sorti.
Il peut se reconvertir.
Je crois pas qu'il soit marié, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Bérénice.
Non, je suis mariée, moi.
On en parlera. En tout cas, restez avec nous sur Sud Radio. Parlons Immo, c'est votre rendez-vous jusqu'à 10h. Comme tous les samedis, on va parler logement toujours dans un instant avec votre invité, Bérénice. On va parler de...
On va parler du décryptage, justement, du marché immobilier.
Qu'est-ce qui est de plus en plus long? Qu'est-ce qui est de plus en plus cher? Quels sont les délais? Quels sont les prix et les taux d'intérêt? À tout de suite.
Sud Radio. Parlons Immo.
Est-ce plus facile ou non de trouver un logement par les temps qui courent? On en parle avec vous, Bérénice de Villefleurio, et votre invité.
Et notre invité, c'est Olivier Bugette aujourd'hui, président de la boîte Immo. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, on va décrypter, on va analyser le marché immobilier avec vous et surtout avec le baromètre Intercab que vous publiez, je rappelle, tous les trimestres, qui regroupe plus de 8000 agences immobilières indépendantes qui sont réparties donc sur toute la France. Il y a un maillage assez régulier. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est une agence immobilière indépendante, nous rappeler ce que c'est, et puis nous parler donc de la méthodologie de ce baromètre Intercab?
Avec plaisir. Eh bien, les agences immobilières indépendantes sont ces milliers, ces dizaines de milliers de commerces que vous voyez souvent en bas de chez vous ou dans votre quartier et qui sont dirigés par des hommes, des femmes très courageuses et très courageux qui sont indépendants, qui ne sont pas rattachés à un réseau ou à une marque et qui fonctionnent de façon totalement autonome. Et ce sont les professionnels avec lesquels nous travaillons depuis maintenant plus de 15 ans et que nous avons le plaisir de fédérer, de regrouper sur une plateforme qui s'appelle Intercab et qui permet à ces professionnels de mutualiser leurs efforts, de mutualiser leurs biens, notamment pour mieux répondre aux attentes des propriétaires et notamment des acquéreurs.
Et alors justement, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors sur cette plateforme, qui est une plateforme professionnelle, les professionnels peuvent échanger des mandats et collaborer ensemble, mutualiser leurs forces pour proposer une offre beaucoup plus importante aux acquéreurs qui sont à la recherche d'un logement et proposer par là même une visibilité beaucoup plus importante également aux propriétaires qui souhaiteraient vendre leur logement. Et fort de ces 8500 agents immobiliers qui composent cette communauté de professionnels, eh bien nous sommes en capacité de remonter toutes les datas, toutes les informations du marché, et ce partout en France, puisque il faut pas l'oublier, les indépendants représentent aujourd'hui les deux tiers des professionnels, donc ils ont une vue très exhaustive du marché.
Donc il y a plus d'indépendants que de franchisés, hein.
Absolument,
franchisés,
oui,
c'est
sûr.
Les grands réseaux qu'on connaît.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup plus d'indépendants aujourd'hui en France. C'est un marché qui reste encore entre les mains, effectivement, des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs indépendants. Et grâce à leur travail, eh bien, nous sommes en capacité de créer un observatoire qui conjugue à la fois les datas, c'est-à-dire les prix, l'évolution des prix, l'évolution des volumes de vente, etc. Mais également le feeling et le ressenti de ces professionnels sur l'évolution et sur les grandes tendances du marché.
Alors justement, là, vous venez de publier les résultats donc pour le premier trimestre 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, avant de rentrer dans le détail des chiffres, comment vous décririez la situation en France du marché immobilier?
Alors, sur le premier trimestre 2024, on est dans un marché qui a peiné à changer de visage. Vous savez qu'on sort d'une année de 2023 qui a été un petit peu morose, en tout cas qui est en rupture avec les années précédentes qui elles-mêmes étaient des années historiquement hautes avec des records de volume de transactions. Et là, le premier trimestre 2024, on est toujours un peu dans cette même dynamique, à savoir des prix qui continuent de baisser. Doucement, mais certainement, et ces baisses quand même se cumulent, hein, donc on a des prix quand même qui sont bien différents de ceux qu'ils pouvaient être il y a 6 ou 9 mois. Et parallèlement à ça, des taux d'intérêt qui sont plus favorables aux acquéreurs, mais qui restent néanmoins différents de ceux qu'on a connus dans cette période faste où on prêtait de l'argent gratuitement. Et la baisse n'est pas encore suffisamment forte pour avoir pu entraîner avec elle, dans son sillage, bien un dynamisme et un relèvement des transactions. Donc,
c'est mieux, mais ça repart pas forcément comme on voudrait.
Sur ce premier trimestre, en tout cas, effectivement, on peut pas parler de reprise incroyable. On est plutôt sur une continuité de la baisse.
Est-ce que vous confirmez ce que nous disent les courtiers, que toutes les banques sont revenues pour prêter aux Français?
Oui, il y a eu vraiment de bonnes nouvelles sur ce premier trimestre, malgré cette morosité. On a quand même un retour en force des banques qui à nouveau veulent faire leur métier et veulent prêter aux acquéreurs. On a des taux qui sont quand même nettement baissés aussi, on flirte avec les 5%, on est aujourd'hui plutôt en dessous de la barre des 4%, et puis on a également le retour de pas mal de catégories différentes qui se réintéressent à l'immobilier, et surtout on a des stocks qui se sont enfin reconstitués. Donc ça veut dire que les acquéreurs qui nous écoutent aujourd'hui ont à nouveau du choix. Un choix important. Et ça, ce n'était pas le cas il y a 12 ou 18 mois en arrière. Il y avait une pénurie de biens sur le marché et c'est pas très agréable quand on est à la recherche soi-même d'un logement.
Ouais, et qu'on doit se contenter de ce qu'il y a, quoi.
Exactement.
Ouais. Ouais, il y a le choix, mais c'est trop cher encore.
Oui, il y a le choix. Oui, c'est encore un petit peu cher, mais néanmoins, on en parlera tout à l'heure peut-être.
Alors justement, même... on va en parler maintenant. Si on peut chiffrer ces prix immobiliers, cette baisse dont vous parliez un petit peu.
Bah écoutez, on a regardé depuis le début de l'année les 10 premières grandes villes de France et on est sur une baisse très claire de moins de 3%.
Donc en moyenne sur les 10 plus grandes villes.
Sur les 10 plus grandes villes en moyenne.
D'accord.
Vous avez par exemple des villes comme Bordeaux ou comme Lyon qui passent symboliquement en dessous des 5000 euros le mètre carré. Vous avez Bordeaux qui baisse de 2% et Lyon de 6% sur cette période. Donc il y a quand même vraiment des baisses. Mais il y avait des hausses qui avaient été tellement spectaculaires. Ouais.
Parce que Bordeaux et Lyon, ça avait bien augmenté.
Oui,
hein.
Exactement. Notamment Bordeaux qui avait flambé. Ouais. Et donc la correction qui est nécessaire aujourd'hui pour pallier à la baisse de pouvoir d'achat des ménages, malheureusement, elle n'est pas...
Elle serait de combien? Est-ce qu'on peut la chiffrer ou pas? Cette correction serait nécessaire? Ou c'est
alors,
difficile?
C'est délicat parce que ça dépend de pas mal de critères et notamment les baisses déjà antérieures. Donc, à date, il faudrait que les prix continuent de baisser dans les mêmes proportions dans les mois qui viennent pour qu'on puisse à nouveau... à la faveur de la baisse des taux d'intérêt et de la baisse de ses prix et des notions de négociation qui elles aussi sont de retour, eh bien pouvoir compenser à cette part de marché qui a été perdue, ce pouvoir d'achat qui a été perdu par les ménages.
Alors un des gros points, une des raisons, alors pas la seule évidemment, mais qui faisait que le marché était totalement bloqué, c'était les négociations qui étaient impossibles. Les vendeurs ne voulaient pas baisser leurs prix, les acquéreurs n'étaient plus en capacité d'acheter, hein, puisqu'on l'a dit, les taux avaient augmenté, les banques ont durci leurs conditions d'octroi de crédit immobilier. Donc il y avait vraiment le point d'équilibre qui était impossible à trouver. Là, est-ce que des négociations sont à nouveau possibles entre les vendeurs et les acquéreurs pour le prix?
Alors très clairement, changement de paradigme par rapport à ce sujet. Nous étions post-Covid à une situation où les propriétaires étaient tout puissants et la négociation n'était même pas envisageable. Nous sommes passés à une situation où la négociation est quasi systématique. Ce sont nos agents immobiliers indépendants Intercap qui nous le remontent. Clairement, 80% des transactions sont accompagnées d'une négociation. Alors on les a interrogés pour essayer de comprendre un peu de quel ordre elles pouvaient être et on a un consensus autour de 6%. 6%, c'est... le volume de négociations basique qui se fait dans la plupart des transactions.
Il y a bien Kylian Mbappé qui a réussi à négocier
oui,
2 millions d'euros.
C'est les meilleurs, ouais.
Est-ce que justement les vendeurs, on parlait justement de ces vendeurs hein, depuis plusieurs mois qui avaient du mal à baisser leurs prix, et ça peut se comprendre quand on a vu la flambée des
bien
prix,
sûr.
Ils ont peut-être
bien
acheté leurs biens plus cher,
bien
et
sûr.
Ils avaient du mal à baisser. Est-ce que maintenant la pédagogie fonctionne auprès d'eux?
Oh.
Est-ce que
absolument. Alors deux choses. La première, effectivement, merci de le souligner. Il y a un gros travail de pédagogie qui est fait par les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier qui sont là pour accompagner leurs clients dans les bons et les moins bons moments. Quand les prix sont très en faveur des propriétaires, eh bien ils sont là pour vous faire profiter de cette hausse. Et quand les prix eh bien sont différents, sont à la baisse, eh bien ils sont là pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas prétendre vendre des logements aujourd'hui au prix que l'on connaissait il y a 18 mois. Et ça, eh bien ce sont les agents immobiliers qui l'expliquent depuis des mois et des mois. Et c'est certainement grâce notamment à cette pédagogie, à ce travail, que nous allons réussir à revenir à des volumes plus intéressants et plus dynamiques. La deuxième chose, c'est que on est dans des vases communicants. Faut pas oublier que 80% des gens qui vendent un bien immobilier le font pour réemployer cet argent à l'achat d'un bien immobilier, donc racheter eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Des propriétaires qui ont certes vendu dans des tranches très hautes leur logement il y a 18 mois, mais qui ont racheté immédiatement dans des tranches toujours aussi hautes, ou alors des propriétaires qui aujourd'hui vont effectivement consentir un effort sur le prix de leur bien, mais qui vont pouvoir réemployer eux-mêmes leur patrimoine à acheter un bien plus accessible, tout en valorisant, tout en validant les plus-values importantes qu'ils ont réalisées quand même ces dernières années, il faut pas l'oublier. Et même en rognant un petit peu sur son prix aujourd'hui, si tant est qu'on possède son bien depuis 4, 5, 6, 7 ans, on valide quand même des plus-values qui sont tout à fait intéressantes.
Il faut quand même rappeler qu'à la base, l'immobilier, c'est pas un produit de spéculation. Hein.
C'est un produit de logement.
C'est des logements. Un petit mot peut-être sur les délais de vente. Alors, délai de vente, c'est combien de temps il faut pour vendre son bien? Si je veux mettre mon bien en vente, combien de temps ça prendra pour trouver preneur?
Alors, les délais de vente, c'est un indicateur qui donne vraiment le ton du marché. Post-Covid, vous vendiez en moins de 30 jours.
Ah oui.
Moins d'un mois entre le moment où vous présentez votre bien à la vente et au moment où un compromis est signé. Aujourd'hui, on est passé sur le début d'année de 30 à plus de 150 jours pour vendre un bien. Donc de 1 à 5 mois. Mmh. Et là, je vais spoiler un petit peu la sortie du prochain observatoire du mois de juin, mais on est en train de constater que l'on est en train de voir ce délai baisser. On est plutôt dans l'ordre de 124 jours à l'heure où je vous parle. Donc, ça témoigne d'un frémissement, d'un retour d'intérêt de la part des acquéreurs qui commencent à revenir très concrètement sur le marché.
Les acquéreurs, juste un petit mot sur les primo-accédants. Alors les primo-accédants, c'est les Français qui font leur premier achat. Hein. Oui. C'est souvent des jeunes qui étaient locataires ou qui vivaient chez leurs parents et qui achètent pour la première fois leur foyer. Ils avaient totalement disparu, hein, parce que souvent quand on est primo-accédant, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de moyens de financement et ils étaient un peu délaissés par les banques. Est-ce qu'ils sont de retour sur le marché?
C'est la bonne nouvelle aussi de ce début d'année, c'est qu'effectivement ils sont de retour sur le marché. On constate qu'il y a plus de 8% de primo-accédants en plus sur les volumes de recherche, et ils le sont notamment parce que les banques reviennent à nouveau vers eux et à nouveau c'est une catégorie qui intéresse les banques et ce sont principalement les primo-accédants qui se sont constitués une petite épargne et qui bénéficient d'un apport qui aujourd'hui arrive à concrétiser leur projet. Mais il y a un retour en force effectivement de leur part. Après, l'intérêt pour l'immobilier ne s'est jamais démenti chez personne, ni chez les investisseurs, ni chez les primo-accédants. Simplement, les conditions n'étaient pas encore réunies pour pouvoir agir. Mais la volonté, elle est sous-jacente et elle est toujours aussi forte.
Et en un mot, vous abordez la prochaine saison avec quoi? Optimisme, pessimisme?
Avec clairement de l'optimisme. On sort de 18 mois un petit peu compliqués.
Le plus dur est passé.
Voilà. Et sincèrement, on est persuadé que le second semestre sera un semestre de reprise.
Et ceux qui vous écoutent,
vous
leur dites quoi? Acheter maintenant ou acheter dans 6 mois, si vous avez les moyens d'attendre?
Comme on vient de l'évoquer, aujourd'hui, il y a du choix. Aujourd'hui, il y a du stock. Aujourd'hui, il y a des négociations possibles. Est-ce que demain, quand tout le monde va revenir et que l'engouement à nouveau va être fort pour l'immobilier, la situation sera aussi agréable? J'en suis pas sûr. Donc,
ne perdez pas de temps. C'est ce que vous aurez dit en tout cas. Merci beaucoup.
Olivier Bugette, président de la boîte IMO.
Et on se retrouve dans un instant, toujours Parlons Immo. 0826 300 300, les messages que vous nous avez laissés sur le répondeur de Sud Radio. On va parler de
téléassistance, Jean-Marie.
À tout de suite, Bérénice.
Sud Radio, Parlons Immo.
Parlons de votre logement sur Sud Radio, comme tous les samedis jusqu'à 10h, avec toute l'équipe de Radio Immo, Grégoire Daricot et Bérénice de Villefleuriot. Là, on fait le tour des messages qui nous ont été laissés sur le répondeur de Sud Radio, 0826 300 300, Bérénice.
Et on a eu des messages à propos de la téléassistance.
Qu'est-ce que c'est?
Voilà, quel est le rapport avec l'immobilier? Eh bien, figurez-vous que nous allons être de plus en plus nombreux à vivre chez nous. C'est d'ailleurs un des chantiers, un des gros chantiers des années à venir. Hein. Le gouvernement on a fait un de ses objectifs. Nous comptons aujourd'hui 2,5 millions de seniors qui souffrent de perte d'autonomie. Un chiffre qui pourrait grimper à 4 millions en 2050.
Ce qui est considérable.
Ouais. Et parmi ces seniors, 90% en moyenne ont exprimé le souhait de vouloir rester chez eux. Ils veulent vivre chez eux et ça se comprend.
À domicile.
Exactement, à domicile. C'est un sujet de société donc. Et nous allons en discuter avec notre expert. Nous avons le plaisir de recevoir Alain Monteux. Bonjour, vous êtes le président de Tunstall.
Oui, bonjour.
Et bienvenue à vous sur Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Hein. En quoi le sujet de l'aide au maintien à domicile et de la téléassistance est-il une importance capitale aujourd'hui? Vous allez peut-être aussi nous expliquer ce qu'est la téléassistance.
Oui, alors très bien. Pourquoi ça nous concerne tous? Parce que de la même façon que la transition écologique, la transition démographique nous concerne, vous avez rappelé les chiffres, nous allons être de plus en plus nombreux à avoir plus de 60 ans et nous voulons tous vieillir à domicile. Donc ça, pour des solutions d'aide à domicile, et la téléassistance est aujourd'hui la seule solution qui vous relie au quotidien à une centrale d'écoute et d'assistance. Et vous avez un besoin, vous avez un malaise, vous avez une envie, vous nous appelez via votre petit bouton d'appel. Parce que la téléassistance, c'est en premier lieu un petit bouton d'appel que vous portez sur vous en pendentif ou en montre. Et quand vous appuyez dessus, bien, vous êtes relié à ce qu'on appelle chez nous des anges gardiens qui vont répondre à vos besoins. Et en cas de malaise ou en cas de chute, qui vont prévenir votre réseau de solidarité ou les secours s'il y en a besoin.
Et oui, parce que c'est vrai, je rappelle, hein, quand on est une personne âgée, on a tous des personnes âgées autour de nous qui sont tombées, et quand elles tombent, elles peuvent pas se relever. Donc c'est vrai qu'il faut absolument avoir un petit bouton donc autour de son poignet, autour du cou.
Pour pouvoir appeler à l'aide.
Pour pouvoir appeler au secours, voilà, à l'aide. Alors justement, du coup, comment ça fonctionne exactement? Donc vous avez dit c'est des anges gardiens, mais c'est des centres, c'est ça? Et après, comment ça se passe en termes de téléassistance?
Ben, quand vous souscrivez à une offre de téléassistance, on va définir avec vous ce qu'on appelle votre réseau de solidarité. Donc, c'est les personnes de votre entourage qui peuvent intervenir avec un accès à votre domicile. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être un concierge, ça peut être une aide à domicile. Et si vous êtes tombé, et on sait que une des peurs principales des personnes âgées, c'est de tomber, oui, et de rester seul chez soi et de rester longtemps par terre. C'est là qu'il y a des conséquences graves.
Bien sûr.
Et des hospitalisations. Mais nous, on va prévenir ces personnes pour vérifier si vraiment il vous arrivait quelque chose de grave. Et si jamais cette validation permet de valider qu'il y a quelque chose de grave qui vous est arrivé, ou si la personne au téléphone détecte qu'effectivement il faut tout de suite appeler les services de secours, nous appelons les services de secours pour qu'ils interviennent à votre domicile le plus rapidement possible. Ce qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, donc on est vraiment dans une logique de prévenir les risques graves et les séquelles suite à une chute.
Alors en France, en revanche, on est en retard par rapport à nos voisins européens notamment.
Alors oui, nous sommes en retard. Si on regarde la population des plus de 75 ans, on regarde en France, nous avons 10% des personnes de plus de 75 ans qui sont équipées de la téléassistance. Et ce taux de pénétration des personnes de plus de 75 ans est au-dessus de 20% que nous regardions en Espagne, dans les pays nordiques ou en Angleterre.
Ça s'explique aussi par l'exception française où justement le fait que les personnes âgées aillent en EHPAD est beaucoup plus répandu que dans d'autres pays, par exemple en Allemagne.
Oui.
Oui et non. Ça peut être une des explications, mais il y a aussi une autre explication, c'est qu'il y a une volonté publique qui est peut-être plus forte, ou une compréhension peut-être plus forte que la téléassistance est un outil de prévention, parce qu'encore une fois, comme ça va éviter les risques graves de chute,
c'est ça.
Après chute, en 80% des cas, vous allez rester à votre domicile, tandis que sinon, vous allez aller directement à l'hôpital. Et quand vous prenez des pays nordiques, quand vous prenez la Suède, la téléassistance est 100% mise en place gratuitement par des offres publiques dès que vous avez un début de perte d'autonomie. Ce qui n'est pas le cas en France, où uniquement un tiers des départements ont mis en place une offre publique départementale de téléassistance.
D'où le retard.
Oui, d'où le retard principalement, parce que une offre départementale, ça permet de mettre une offre de qualité, ça permet de mettre en place une offre tarifairement abordable. Et c'est pas pour rien que Tolstoy, nous sommes le premier partenaire des départements et des CCAS.
Donc selon vous, il faudrait que les pouvoirs publics fassent beaucoup plus de pédagogie et puis s'impliquent plus aussi par rapport à la téléassistante.
Alors ça a commencé, hein, les choses bougent, il y a eu le plan anti-chute du gouvernement qui se met en place. Mais encore une fois, je vous dis, un tiers des départements ont mis en place une offre publique. Alors que d'autres pays, par exemple, je regarde en Espagne, ils ont mis en place un droit légal à la téléassistance. Toute personne en début de perte d'autonomie a le droit d'avoir une téléassistance payée par la région, qui est l'équivalent du département.
Mmh. Pour vous retrouver, donc, vous avez un site internet peut-être ?
Tunstall.fr, tout simplement, donc T-U-N-S-T-A-2-L.fr.
Et donc, vous proposez donc justement des services de téléassistance
Services de téléassistance pour vous sécuriser à domicile, pour vous sécuriser en mobilité, parce qu'il est important de sortir de chez soi pour y rester le plus longtemps possible.
Et est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix pour qu'on puisse s'imaginer ?
On est sur des offres à 25 euros par mois, une offre d'entrée, ce qui, après le crédit d'impôt, ça vous fait 12,50 euros par mois, tout inclus. C'est moins cher qu'une baguette de pain.
C'est bien de préciser qu'il y a un crédit d'impôt, parce que je rappelle qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour votre télédéclaration.
Dépêchez-vous. En effet, selon le département où vous habitez. Merci beaucoup.
Merci Alain Monteux. Vous êtes, président de Tunstall.
Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez des questions à nous poser. 0826-300-300. Laissez-nous vos messages. On vous met en relation avec nos spécialistes. Tout de suite, le Tour de France.
Sud Radio. Parlons Immo.
Avec Grégoire Déricault, le Tour de France des biens à acheter un peu partout en France. On commence par un bien proposé en viager par notre partenaire Viage Immo, Grégoire.
Et oui, pour ce premier bien, mes amis, je vous emmène au soleil, direction la Croisette. On va imaginer sous un soleil radieux. Et le bien que je vous propose, c'est avec notre partenaire Viage Immo, est un appartement de 4 pièces de 65 mètres carrés. Un appartement face à la mer et aux îles de l'Airain, près de Bijoux Plage. Un appartement traversant.
Il prend bien son nom.
Tout à fait. Un appartement traversant qui se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'un grand séjour baigné de lumière et climatisé, d'une cuisine indépendante et équipée, d'une chambre principale climatisée avec placard et vue sur mer, très sympa, et d'une deuxième chambre et de deux salles de bain. Le petit plus, nous dit l'annonce.
Le tapis rouge.
Alors, ce qui n'est pas très loin, mais aussi c'est la plage de Palm Beach qui est à 300 mètres. Et la plage de Palm Beach est en cours de rénovation. Elle proposera bientôt des services très haut de gamme et on imagine aisément notre ami Bérénice y siroter un cocktail.
Et oui, après que Jean-Marie ait monté les marches.
Après que je l'ai invité, absolument. Voilà. Donc, c'est un bien proposé en viager. Quelles sont les conditions ?
Alors, les conditions, ici, nous avons un bien qui est proposé en viager occupé au profit d'une dame de 82 ans. Pour acquérir ce bien, il faudra débourser un bouquet de 368 467 euros et une rente viagère mensuelle de 3500 euros. Une belle opportunité pour laquelle vous pouvez en savoir plus en contactant l'agence Viagimo de Cannes. Vous avez également la possibilité d'y faire une visite virtuelle de l'appartement sur demande. Et sinon, vous pouvez vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr.
Eh bien, c'est parfait. On poursuit le Tour de France.
Sud Radio. Parlons Immo.
Deux autres biens à acheter de manière un peu plus classique. On part où, Grégoire ?
On remonte un petit peu plus au nord, Jean-Marie, à quelques kilomètres de Lyon. Bienvenue à Saint-Bonnet-de-Mure, une commune de 6920 habitants située non loin de l'aéroport Saint-Exupéry. Mmh. Notre bien est une maison de ville de 6 pièces et 137 mètres carrés, un véritable havre de paix que nous allons découvrir ensemble. Il y avait du soleil sur les photos de l'annonce, alors je l'ai trouvé très sympathique, cette maison, pleine de charme.
Et le coin est très sympa, hein, connais, c'est très très sympa.
Ah bah voilà, très bien. Donc nous avons la confirmation que le coin est sympa et la maison, Bérénice, elle est sur les hauteurs de la ville. Elle propose ainsi une vue très dégagé sur les alentours, idéal pour une petite famille. Très important. Elle comprend au rez-de-chaussée une suite parentale avec salle de bain privée et dressing, une cuisine ouverte sur le séjour. Vous aurez trois autres chambres à l'étage, assez grandes, 14, 15 et 20 mètres carrés, et une salle de bain avec douche et baignoire. À noter que la maison dispose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau solaire. Voilà, notre maison, elle est située à 15 minutes de l'aéroport, 7 minutes de l'autoroute, 2 km du centre-ville où il y a des commerces, salles de sport, supermarchés, piscines, parcs, etc. Et les équipements scolaires se situent, eux, à 5 minutes à pied pour l'école primaire et 2 minutes pour la garderie. Enfin, comble du comble, notre maison a un diagnostic de performance énergétique, enfin, je vais y arriver, classé B.
Effectivement, ça coûte combien ?
Eh ben, elle coûte 490 000 euros par l'agence EXP France.
Et avec une petite simulation de financement quand même.
Si on veut l'acheter cette maison, 20% d'apport, soit 98 000 euros, un emprunt sur 25 ans à 4%, vous auriez des mensualités de remboursement à 2069,12 euros.
Oh, c'est pas mal, on poursuit le Tour de France tout de suite.
Et là, on part à l'ouest cette fois, dans une cité impériale. Je vous emmène sur la côte basque à Biarritz, bienvenue au bord de l'océan Atlantique, rarement calme et souvent fort.
Ouais.
Cette fois, c'est un appartement de 36 mètres carrés que je vous ai trouvé. 36 mètres carrés, deux chambres situées dans dans le quartier de la Milady, à proximité du Golfe et de la Cité de l'Océan. Ouais. Rentrez dans une résidence sécurisée avec piscine et vous trouverez cet appartement avec cadre de vie exceptionnel. Il dispose d'une terrasse exposée plein sud, d'une vue imprenable sur la montagne de la Rune et à deux pas des plages.
Très haut de gamme en gros.
Pas mal. Et ben, le prix aussi est assez haut de gamme. Hein. 36 mètres carrés, on a 306 000 euros par l'agence Orpi. Voilà. Mais c'est normal, c'est Biarritz. Donc avec un apport de 20%, soit 61 200 euros, un emprunt sur 25 ans à 4%, vous aurez des mensualités à 1 707 euros.
Et bon courage à tous les Basques qui nous écoutent et qui ont du mal à se loger. Maintenant, exactement, on comprend pourquoi, effectivement. Merci à vous, Grégoire Daricot. Vous choisissez lequel des trois?
Moi, Biarritz, Saint-Jean-Marie.
Biarritz.
Mais je suis pas très objectif.
Mais c'est un surfeur aussi, Grégoire.
Pas très objectif.
Effectivement. Merci à vous, Bérénice de Villefleurio. Je rappelle que cette émission sera rediffusée à midi mardi prochain sur Radio Imo. Vous pouvez la retrouver aussi en podcast sur sudradio.fr ou alors en vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Chers amis, on vous dit à bientôt.
Et oui, la semaine prochaine, on parlera bâtiment avec Olivier Saleron.
Super, à bientôt.
Sud Radio, parlons Imo.